FM.
Salut tout le monde, bienvenue dans Raconte ta parentalité. Parents, c'est le plus beau métier du monde, alors pourquoi ne pas le raconter? À chaque épisode, je recevrai un invité ou une invitée qui racontera sa parentalité ou comment il l'a vécue. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Fatoumata Sidibé. Comment tu vas, Fatou?
Je vais très bien, merci pour l'invitation.
Franchement, Fatou, c'est un honneur de t'avoir, surtout que tu es une maman engagée. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Qui est Fatou?
Ben, avant toute chose, moi-même, je suis émue d'être là, hein, clairement. Je peux parler de liens qui nous...
Ouais, bien sûr.
Ben, déjà, d'abord, avant toute chose, voilà, je suis l'enfant aîné d'une famille de 3 enfants. Donc, je suis née et j'ai grandi à Villepinte. Et on va dire, dans mon parcours scolaire, j'ai pu rencontrer...
la vraie amie.
C'est pour ça que je suis trop émue d'être là. Parce que...
on va tout savoir de nous.
on a fait pas mal de choses, hein, dans la jeunesse.
On a traîné nos basques, c'est vrai.
Non, mais franchement, quand je vois où on est aujourd'hui, je peux dire qu'on a pris le bon chemin. Et justement, ce qu'on a vécu, je pense, nous a vraiment forgé. Moi, on peut que s'applaudir, vraiment. Exactement. Être parent, déjà, c'est ça. Hein. Pour un peu revenir à...
Qui tu es, quel âge tu as, ta composition familiale.
Donc, 39 ans maintenant. À la veille de 40 ans, on se pose pas mal de questions. On essaye de revenir sur son parcours. Donc, comme je disais, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Donc, j'ai un petit frère et une petite sœur. Des parents issus de l'immigration, retraités maintenant.
Toujours en couple.
Voilà, toujours mariés. Ils sont retraités de la fonction publique en plus. D'accord. Donc, voilà. Ma mère a été un beau modèle pour moi, justement, parce que vraiment, même je dirais mes parents, parce que on va dire quitter son pays d'origine et s'installer dans un pays qui n'est pas le sien, et on va dire se créer une famille et essayer, on va dire, s'intégrer, c'est pas donné à tout le monde. Eux, ils ont réussi à le faire et en même temps donner en tout cas l'éducation. Des deux continents, tu vois, en France, mais aussi de l'Afrique.
T'es de quelle origine, du coup, Fatou?
D'origine malienne.
D'origine malienne. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu étais jeune? Qui était Fatou, la petite fille, avant l'adolescence, hein, parce que tu veux trop raconter
parce
nos
que
histoires.
Parce que j'allais dire, je te laisse parler. Mais petite fille... Franchement, de ce qu'on me disait, j'étais une fille souriante, sociable, curieuse et même créative.
D'accord. Voilà. Et ton lien avec tes parents, ta fratrie?
Une petite famille tranquille, quoi. Une petite famille tranquille qui a grandi dans une zone pavillonnaire.
Tu t'entendais bien avec tes frères et sœurs, parce que du coup tu disais que tu étais la grande sœur. Comment t'as incarné ce rôle?
On va dire, on s'est tout mangé, nous, en tant qu'aînés. On s'est tout mangé pour pouvoir laisser la porte ouverte à ceux qui nous suivaient. Après, c'est vrai que on va dire que ma famille ne s'arrête pas seulement à mon petit frère et ma petite sœur, parce que on a grandi à côté. De mes cousins et cousines.
Ok.
Et c'était...
Une famille élargie un peu?
Ouais, c'était une famille élargie parce que du coup, il y a 2 maisons entre nous. Donc la famille Bagayoko pareil, j'ai inclus dans la famille. Et même, la famille Kodja aussi, qui était juste à côté. Pareil, dans notre zone pavillonnaire, on était vraiment comme une famille chez Wisser et Allen.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu du rapport que tu avais avec tes parents, avec le lien avec ta mère, le rapport? Est-ce que c'était dans la communication, dans l'échange? Est-ce que vous entendiez bien? Et ensuite, dans un deuxième temps, celui que tu avais avec ton père?
Bah, alors pour le coup, c'était pas du tout pareil. Il y a toujours des hauts et des bas, hein, bien entendu. Hein. Le rapport avec ma mère, vu que je porte le nom de la mère de mon père, il avait tendance à être un peu conflictuel dans le sens où on dit quand t'as l'aînée, c'est toujours un peu la co-épouse.
D'accord.
Voilà. Donc quand elle est tombée sur moi, mon père me défendait.
Ouais,
donc
d'accord.
C'était un peu ça. Voilà, c'était un peu ça.
C'était la petite fille à papa.
Ouais, voilà. Non, mais clairement, des rapports un peu conflictuels avec la maman, dû au fait peut-être que voilà, j'incarnais un peu sa belle-mère. Et en même temps, par contre, ouais, très protégée par mon père.
Et du coup, ta mère, elle t'a eu jeune ?
Ben non, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout.
Tu te souviens quel âge elle avait, tu le sais ou pas ? À peu près.
Elle avait à peu près 29 ans.
Ok, d'accord.
Dans nos cultures, c'est tard. Mm. C'est tard, en fait, d'avoir son premier enfant à 29 ans. Donc, non, elle m'a pas eu tôt. Et en plus, pareil, hein, le fait d'avoir que 3 enfants dans une famille malienne, on pourrait dire que c'est cliché. Mais moi, quand je dis aux personnes que j'ai qu'un frère et une sœur, ils pètent les plombs. Mm. Mais comment ça se fait ? T'es sûre que t'es malienne ? Bah ouais.
Oui.
Donc, ouais. Donc voilà un peu. Après, je reste toujours dans l'adolescence ou...
Tu peux progresser un peu dans ton cheminement. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre le lien et le rapport que tu as avec tes parents pour qu'ensuite on puisse le transposer avec la maman que tu es aujourd'hui.
D'accord. Ah ouais, ok. Bon, le lien que j'avais avec les parents, sincèrement, ils ont été là. Ils ont fait tout ce qui était de leur possible pour nous mettre dans les bonnes conditions. Mm. Donc, comme je disais, ils travaillaient à la fonction publique. Ma mère à la mairie de Bagnolet, mon père sur la mairie de Paris. Donc, nous, on a fait les colonies. Ma mère, elle avait le permis, contrairement à mon père.
Ouais.
Donc, ma mère a une voiture. Donc, pour le coup... On se faisait des sorties, en même temps, comme je disais, mes cousins et mes cousines aussi, on faisait beaucoup de sorties entre enfants de la cité.
Ouais, d'accord.
Voilà, si on peut appeler ça une cité, dans une zone pavillonnaire. Donc voilà, franchement, on a eu une belle enfance.
Et Fatou, adolescente ?
Fatou, adolescente, je pense que j'étais un peu comme toutes les adolescentes. On crée des liens de sororité,
ouais.
Hein, avec des filles de son âge, des filles de quartier qui voisins. Mm. On commence aussi à fréquenter les gars,
ouais,
clairement, parce que moi, déjà de base, je dis que j'étais une fille créative et haute, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'étais un garçon manqué.
Ouais, et une danseuse de hip-hop, non ?
Voilà, exactement. Perdu. C'est ça, exactement. Donc... oui, le côté sportif aussi, parce que j'ai fait du handball, effectivement de la danse hip-hop. Et quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'aimais bien faire le foot. Mais pour le coup, ma mère, elle m'a vite stoppée.
Pourquoi ?
D'après elle, le foot, ce n'est pas pour les filles. Donc, ils ont limite, on va dire, forcé le petit frère à aller au foot, alors que lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Mmh. D'ailleurs, il a lâché. Et moi qui voulais en faire, ils sont dit, ma mère a dit non, vas-y, c'est pour les garçons, c'est pas pour les filles. Mais aujourd'hui, elle regrette.
Ouais, donc il y avait quand même un peu cette ligne, cette éducation avec une différence entre filles et garçons. Toi, tu l'as ressenti ?
Si, effectivement. Je pense que je me suis imposée de par mon caractère parce que j'étais la seule, en tout cas, parce que j'ai grandi aussi avec une autre cousine. Hein. Qui a été adoptée, donc qui était plus âgée que moi. Donc certes, j'étais l'aînée de mes parents, mais j'avais ma cousine en fait, qui était avec nous.
Et qui faisait un peu office de grande sœur.
C'est ça. Mais pour le coup, j'étais la seule en fait, à pouvoir fréquenter des garçons. On va dire que ça passait. Parce que moi-même, j'avais un comportement un peu de garçon. On ne s'en faisait pas trop pour moi parce que voilà.
Qu'est-ce que tu appelles un comportement de garçon ? C'est genre dans la posture, dans la tenue vestimentaire. Qu'est-ce que tu penses que tes parents, ils identifiaient comme « c'est bon, Fatou, elle peut y aller, elle ».
Un peu dans la tenue vestimentaire, déjà. Un peu dans la tenue vestimentaire. Après, aussi dans le caractère. Quelqu'un qui ne se laisse pas forcément faire, mais en même temps, qui ne va pas chercher trop midi à 14h. Quoi. Mmh. Voilà. Quelqu'un d'assez pragmatique et donc forcément qui s'entend mieux avec les garçons.
D'accord.
Voilà, c'est plus dans ce sens-là.
Et ta grande cousine, elle était comment, elle, du coup ?
Ben, elle, pour le coup, c'était autre chose. Bon, maintenant, elle a complètement changé, mais c'était autre chose parce que c'était quelqu'un qui était un peu plus renfermé, mais avec deux, trois copines qu'elle avait tout le temps. Mmh. Alors que moi, en termes de réseau, en termes de connaissances, c'est vrai que j'avais pas mal de monde autour de moi. J'avais cette facilité, en fait, à créer du lien. Et après aussi, je pense que quand elle a commencé à travailler, elle a vite, on va dire, repris son indépendance.
Mmh. Ouais.
Voilà. Mais c'est vrai que, ouais, pour le coup, au niveau de mon adolescence, bon, après, on a quand même aussi passé le cap de, ben, à un moment, on ne peut plus aussi faire le garçon jusqu'à, voilà, ouais, bah oui, hein, 18 ans. Voilà. Donc, oui, il y a eu cette période. Mais ça n'empêche que voilà, on a eu aussi un peu ce côté un peu féminin qui est arrivé et qu'il fallait qu'on
assume un peu.
Qu'on assume aussi, exactement.
Il y a eu des après-midi.
C'est ça.
dans les sous-sols des pavillons, on en parle ou pas ? Comment t'occupais ton temps l'après-midi ?
Pas, parce qu'il y a mon fils, il peut écouter ça après, non ? Il va grandir. Et mais quelqu'un va grandir, même là, il peut écouter.
T'as dansé ou pas ?
J'ai dansé, qu'est-ce ?
Et ils étaient où, nos parents ?
Non, mais franchement, là, maintenant, c'était dans les années 90,
ouais,
les années 90-2000. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je vois ce que les jeunes font, franchement, nous, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait.
Et nous, c'était carré.
Franchement, c'était carré, effectivement.
Une baffe,
voilà,
du jus,
ouais,
un sous-sol.
Franchement, c'est sûr.
On mettait la musique juste à,
ouais,
tant pis.
Ouais.
Et ensuite, et avant 17h, voilà, la musique était éteinte, le ménage était fait.
Exactement.
Il ne s'est rien passé.
Voilà, franchement.
C'est vrai.
Donc, pour le coup, nous, sincèrement, on respectait nos aînés.
Ouais.
On faisait les choses, on s'ambiançait, mais toujours avec des règles.
Toujours avec des règles.
Voilà.
Est-ce que tu te souviens de la projection que tu pouvais avoir de toi, on va dire, je ne sais pas, 17 ans. 17 ans, c'est le bon âge, parce que 17 ans, tu vas rentrer dans la majorité, tu vas quitter l'enfance... Et du coup, est-ce que tu te projetais ? Est-ce que vers 17 ans, tu te disais, ouais, quand je serai majeur, ouais, plus tard ? Est-ce que tu t'arrives à te souvenir de ce que tu visualisais ?
Bah, tu sais, c'est bien cette question, franchement, elle est bien. Parce que maintenant, je transpose avec ce que j'ai vécu. Moi, en fait, à 17 ans, justement, franchement, j'arrivais pas à me projeter.
Ok.
J'arrive pas à me projeter, pourquoi ? Déjà, par rapport à mon orientation, très clairement, après le bac, je savais pas où aller. Et heureusement, je suis tombée sur un professeur qui m'a dit, écoute, si tu ne sais pas quoi faire, oriente-toi vers un BTS assistant PME, PMI, où là, tu vas mixer l'administratif, la compta et le commerce. Donc, clairement, ça voulait dire que je ne savais pas où j'allais aller. En même temps aussi, à 17 ans, c'est là où j'avais envie, en fait, d'aller encore mieux connaître mes origines. C'est-à-dire que j'avais été au Mali quand j'étais toute petite avec mes parents, mais après, on n'y était plus allé en fait.
Okay.
Eux, ce qu'ils faisaient, ils se relayaient en fait pour aller chacun de leur côté, l'un garder les enfants et l'autre partait et ainsi de suite. Donc à 17 ans, là, tu prends ton premier job et là, tu commences à toucher un petit peu d'argent et là, tu t'imposes, tu dis à tes parents, voilà, moi, je vais aller au Mali, il faut que j'aille au Mali. Et là, ta mère, elle te dit, vas-y. Parce qu'elle a peur, justement. Bah parce qu'elle sait que t'as un caractère, t'es quelqu'un, tu parles beaucoup, nanani, nanana. Elle a peur que t'ailles faire n'importe quoi, en fait. Non, je me suis imposée. J'ai dit, non, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin, en fait, d'aller au Mali. Parce que non seulement j'étais attachée, en fait, à une tante qui était venue nous rendre visite à Paris, que je voulais aller voir. Et en même temps, ouais, pareil, il y avait aussi son fils qui était venu aussi étudier, donc je m'étais attachée à lui, donc j'avais ce besoin en fait d'aller au Mali et de connaître mieux mes origines.
Du coup, tu fais ce voyage ?
Ah, je fais ce voyage en plus avec une amie.
Tu nous racontes un peu ?
Sénégalaise. Non, franchement, ça a été... c'était en 2005. Franchement, ça a été un super voyage qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui m'a rapprochée encore plus parce que ce pourquoi j'allais, eh ben, ça s'est transformé. Je voulais aller voir ma tante, justement. J'avais pris mon billet en avance et je voulais aller la voir. Et finalement, elle est partie, elle est décédée.
D'accord.
À son âme. Et donc, du coup, Je suis partie, elle n'était pas là, mais voilà, je suis partie aller me recueillir sur sa tombe. J'ai pu découvrir le Mali et vraiment, ça a été un coup de cœur.
Ouais, parce que depuis, tu y retournes souvent maintenant.
Ah oui, non, mais ça a même été un élément déclencheur par rapport à mon parcours entrepreneurial, clairement.
Du coup, tu t'es lancée dans un parcours entrepreneurial à partir de ce voyage, en fait. C'est là que ça a les graines.
À partir de ce voyage que je me suis dit, je ne vais pas faire ma vie en fait en France. J'ai vraiment envie d'y aller m'installer. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait ? C'est que je développe une activité.
Ok, d'accord. Donc toi, en fait, là, aujourd'hui, à l'instant T, tu ne te projettes pas dans une vie ici à Paris, en France. Tu te laisses la possibilité peut-être de bouger.
Ouais. Ah non, mais ça, c'est clair. De toute façon, je bouge déjà. Après, même si ce n'est pas forcément au Mali, mais je bouge.
Ouais, tu voyages beaucoup.
Voyager, voilà. Ça, c'est un truc que je fais souvent. Mais pour le coup, ce voyage-là a déclenché quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, il y a des choses à faire. En fait, tu vois, on sait très bien, l'Afrique, ce n'est pas comme ici. Et là, tu te dis qu'il y a énormément d'opportunités et que ce qu'on te raconte dans les médias, dans la télé, ce n'est pas forcément vrai, qu'il faut vraiment aller sur place pour te rendre compte toi-même des choses. Et faisant le bout de chemin, continuant un peu mes études, on va dire, il y a une graine en moi qui commence à pousser et je décide de devenir wedding planner.
Ok, donc ton premier projet, c'est wedding planner.
Voilà.
À ce moment-là, t'as quel âge ?
C'est en 2012.
En 2012 ?
J'avais une vingtaine d'années. Mais pour le coup, pourquoi tout ça, ça a mûri aussi ? Parce que, on travaillait dans un grand groupe quand même, qu'on va pas citer le nom, mais un grand groupe qui nous a permis de développer une fibre de prestation de services. J'ai été concierge d'entreprise, notamment chez L'Oréal. Et tout ça a migré des choses chez moi. Et on va dire que j'ai été visionnaire. Ça trouvait que ce n'était pas encore assez développé, en fait, le métier de wedding planner dans nos communautés.
Ouais, ok.
Et donc, je me suis dit que moi, je vais organiser le mariage des personnes de la diaspora qui veulent se marier au Mali. Donc, c'était ça mon créneau. Mais malheureusement, il y a eu le coup d'État, en fait, au Mali. Et donc, c'est un peu tombé à l'eau. Et je me suis réorientée sur quelque chose qui a été évident pour moi. Parce qu'on a toujours vu nos parents déjà se rendre à Château Rouge pour pouvoir acheter tout ce qui est produits exotiques et tout ça. Et en même temps, envoyer de l'argent à la famille restée au pays pour les denrées alimentaires. Donc, c'est de là qu'est né le projet e-Market Africa qui permettait non seulement de faire des livraisons de courses ici dans les familles sous forme de pack et en même temps de faire livrer sa famille restée au pays.
C'était l'idée, ça.
Voilà. Après, clairement, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais c'est pas en tout cas c'est pas quelqu'un qui n'est pas issu de la double culture qui pourrait pondre un truc comme ça parce que clairement t'as un pied en Europe et un pied sur le continent africain, donc il faut on va dire les deux aspects pour pouvoir répondre en fait à un problème, parce que ça c'est des problèmes que nous-mêmes on a vécu. Moi j'ai vu mon père avec un sac de riz de 20 kilos sur le dos dans le métro pour rentrer. On sait combien ça pèse les courses, les courses de produits africains. Donc je pense que là, ça a encore plus mûri de vouloir non seulement contribuer au développement économique dans mon pays d'origine, et en même temps aussi, je pense avoir une certaine liberté.
Et puis du coup, tu créais de l'emploi ici aussi.
C'est ça.
Parce que du coup, tu faisais des livraisons ici, chef d'entreprise, finalement.
Oui, exactement.
Aujourd'hui, tu travailles pour une collectivité dont on ne dira pas le nom.
Oui.
Donc, ta vie de femme avec cette projection professionnelle, ça y est, on y est. Et cet amour, cet amour qui va donner naissance par la suite à Ibrahim, comment ça se passe? Moi, je suis une gamine et je veux savoir comment s'est passée la rencontre.
Bah écoute, pour le coup, c'est la rencontre s'est passée dans le cadre de l'entrepreneuriat, notamment. Ce fut une belle rencontre, mais qui ne s'est pas forcément bien terminée. En tout cas, qui s'est bien terminée par rapport à l'arrivée d'Ibrahim, parce qu'aujourd'hui, c'est mon oxygène.
Ouais.
C'est voilà. Mais je veux dire que voilà, aujourd'hui, je n'ai aucune relation avec son père. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal. Mais en soi... ça a été rapide et aujourd'hui mon rôle de mère est en même temps aussi assujetté à un rôle de père très clairement. Bon, même si j'ai quand même le soutien de mes parents, de ma sœur, de mon frère, c'est vrai que j'ai quand même vécu quelque chose d'assez douloureux. Parce que en fait, je ne comprenais pas comment... Parce que j'ai quand même eu à 34 ans. Je me suis dit, comment à 34 ans, en fait, on peut se retrouver à élever son enfant seul, en fait.
Ce n'était pas ta vision, en tout cas.
Ah oui, pour le coup.
Donc, tu rencontres le père d'Ibrahim. Très rapidement, tu tombes enceinte.
Ouais.
Est-ce qu'on peut faire un petit temps de pause sur cette grossesse? Tu te sépares avant la naissance d'Ibrahim ou après?
Avant la naissance d'Ibrahim.
D'accord. Donc, cette grossesse, tu la vis seule du début à la fin ou tu la commences en étant encore en couple et elle se termine seule?
Non, je la vis seule et surtout, je la vis même pas ici. En fait, je pars au Mali.
D'accord.
Pour... pareil, ça montre encore voilà, ce retour toujours aux origines, pour se retrouver, pour se ressourcer. Donc, ma grossesse, je la vis au Mali. Et ça me permet, moi aussi, de faire le point et de me préparer, on va dire, à l'arrivée de cet enfant que j'assumerai seule, en fait. Seule, avec certes,
avec ta famille.
Mes parents. Mais voilà, en tous les cas...
Mais c'était un projet? C'est-à-dire que vous en parlez et très vite, vous avez ce désir d'être parent, ou bien c'est une grossesse qui arrive, une belle surprise qui arrive, qui
c'est
se
ça.
Présente comme ça.
C'est plus une belle surprise qui arrive qu'un projet mûrement réfléchi. Et ça a été vraiment rapide pour le coup. Et donc, d'où aussi, pareil, hein, mon retour rapide au Mali pour, mûrir la chose, parce que moi-même, en fait, j'étais
pas prête. Quand t'es enceinte, t'es à Paris?
Oui, je suis à Paris, par contre. Oui.
Et du coup, c'est à ce moment-là que tu décides de repartir au Mali, vivre ta grossesse un peu, seule, te poser, réfléchir, envisager les choses. Est-ce que tu nous racontes, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quand du coup, t'arrives au Mali, tu t'installes, et du coup, pendant que les mois passent, ton ventre prend forme, tu nous racontes?
Bah pour le coup, c'est vrai que arrivé au Mali, on va dire ma famille qui est sur place ne s'attend pas à cette surprise. Voilà, donc il y a déjà l'effet d'annonce. Et après,
ils le prennent comment quand tu leur annonces?
Franchement, ils étaient assez surpris parce que après comme moi-même, franchement, je m'y attendais pas. Tout le monde se disait que Fatou, elle est en mode entrepreneuriat. J'avais déjà un bébé, le bébé e-market Africa. J'étais plus sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que ce n'était pas forcément attendu, mais après, ça a été vite assimilé. Ça a été vite assimilé. Physiquement, je n'ai pas eu du tout de soucis. Au contraire, je restais super active. Et j'ai continué justement à mûrir les choses. Et c'est même là aussi encore, je me suis dit, j'aimerais élever Ibrahim au Mali, quoi.
Donc à ce moment-là, en fait, tu t'imagines rester au Mali avec Ibrahim et vivre là-bas sur l'instant. Tu te dis, pourquoi pas évoluer là-bas? Ou est-ce que tu as cette projection de retour en France ou est-ce qu'elle vient bien plus tard?
Non. J'ai cette projection de retour en France, d'accoucher en France. Voilà, de faire les premiers instants en France pour un peu voir un peu ce qu'il en est du bébé, si tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai cette envie, après, directement de repartir. Chose que j'ai faite, d'ailleurs.
Et le suivi de grossesse au Mali ?
Ben, impeccable, hein. En fait, clairement, en Afrique, certes, on n'a pas forcément le matériel high-tech comme ici, mais on a de très bons médecins. On a de très bons médecins. Donc, j'ai appris le sexe du bébé là-bas.
Ouais, OK.
J'ai appris le sexe du bébé là-bas. Voilà, je faisais mes contrôles... Voilà, mes contrôles là-bas, tout se passait bien. Après, c'est vrai que je n'ai pas une grossesse compliquée. Ouais, non, franchement.
Quand tu annonces que ça va être un petit garçon, tu ressens quoi ?
Franchement, je savais déjà. J'étais persuadée que ça allait être un garçon et que je donnerais le nom de mon père.
Tu vois, et les choses, elles se sont passées comme ça.
Exactement,
finalement.
Ouais.
Donc, tu rentres en France pour accoucher. Ça y est, tu perds les os. Ce jour-là, tu faisais quoi ? Est-ce que tu as perdu les os ? Parce que je te dis, ça y est, tu perds
les os. J'ai même pas perdu les os.
Voilà, c'est ça, mais ça m'étonne
j'ai
pas toi.
J'ai même pas perdu les os. En fait, y a les contractions qui viennent. Du coup, ouais, non, j'étais chez moi, tranquille. Et là, je commence à avoir mal au ventre. Et j'avais, les ballons, là.
Ouais.
Je commence à me mettre dessus. Je suis genre, vas-y, je vais attendre un peu.
Tu gères.
Ouais. Et en plus, surtout, j'avais fait un contrôle la veille. Et en fait, ils voulaient pas sortir.
Okay.
Il était trop bien où il était.
Tête vers le bas ?
Ouais, non, lui là.
Il n'était pas prêt encore.
Il n'était même pas prêt. Okay. Il ne voulait pas sortir. Donc, du coup, même, on m'avait même dit que si jamais il ne sortait pas, on allait me déclencher pour sortir. Donc, bon, heureusement pour moi, il a décidé à sortir. Mais même ça, en fait, clairement, parce que quand je suis arrivée et qu'on m'a mis la péridurale, on a tout fait pour, provoquer les contractions pour l'aider en fait à trouver la sortie. Il voulait pas,
il voulait rester dedans.
Donc ça a fini en césarienne.
D'accord.
Voilà.
Donc à ce moment-là, on t'annonce comment cette césarienne, comment tu l'accueilles, t'es prête à accoucher. Bon, tu sais qu'il est pas trop prêt, mais à ce moment-là, t'imaginais accoucher par voie basse, je suppose.
Franchement, ouais.
Et quand on t'annonce que ça va être une césarienne, qu'est-ce qui s'est
Sincèrement, ça a été traumatisant pour moi. Ouais. Vraiment, cette affaire d'annonce de césarienne, ça m'a été traumatisant. Et même mieux, quand on m'a anesthésié, en fait, quand on a fait l'anesthésie locale, mes limites, on m'a giflé. Parce que, je crois que ce qu'on m'a injecté, je n'ai pas supporté.
OK.
Donc, j'ai rendu, en fait, j'ai vomi. Et donc, du coup, on m'a mis une tarte pour me remettre la tête de côté pour pas que je puisse avaler, voilà. Et non, franchement, même après, parce qu'on m'a fait les agrafes.
Ah oui, d'accord, c'était à l'époque.
Non, franchement, ça m'a traumatisé la césarienne.
Et tu les as trouvés comment, du coup ? T'as accouché où, Fatou ?
À la clinique du Blanc-Ménil.
À la clinique du Blanc-Ménil. Et je souris parce que Nayla, elle est née là-bas.
Ah.
Et du coup, comment tu les as trouvés en suite opératoire ? Parce que du coup, toi, t'es pas prête à cette césarienne. Comment on t'explique les choses ? Et surtout, comment se passe la rencontre avec Ibrahim ? Alors du coup... tu nous racontes ce moment et ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti ?
Écoute, du coup, j'étais un peu dans le coltard, hein, clairement, parce que le temps que l'anesthésie, elle redescende. Donc, moi, c'est quand il est sorti, en fait, on a entendu une sorte de miaulement. Quand il est arrivé, c'est un miaulement. Et ouais, mais vraiment. Il y a ma cousine qui était avec moi qui dit mais attends, moi je comprends pas, il y a un chat dans alors que c'était lui qui arrivait, quoi.
En fait.
Non, mais c'est incroyable. Et c'est vrai que on le met contre soi, mais on est KO en même temps, on comprend pas trop ce qui nous arrive. On nous monte dans la chambre, le temps que on finit de le préparer, de lui mettre les vêtements, on le ramène. Et j'ai passé une nuit infernale.
Ah ouais.
Il a pas arrêté de pleurer, Ah non, c'était franchement c'est chaud, hein.
Et ils t'ont proposé de le garder ou ils te l'ont laissé ?
Ben en fait, on me l'a ramené. Et du coup, comme moi vraiment franchement, à un moment j'en pouvais plus. J'ai demandé à ce que vraiment... Au début, je voulais le garder, hein, mais j'ai dit non, il va falloir que vous le récupériez. Bon, après, il y avait des examens aussi à faire complémentaires. Mais ouais, non, franchement, c'était vraiment chaud. Il a vraiment pleuré. Jusqu'à, je demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bout de Dieu ? Pourquoi il pleure comme ça, en fait ?
Tu t'es sentie comment ?
Ouais, ah, franchement, je me suis sentie... Déjà, le fait de la césarienne. Le fait de la césarienne, je me suis dit, j'ai peut-être échoué, en fait. Pourquoi une césarienne ? Et après, le fait qu'il pleure comme ça, je me dis peut-être qu'il se sent mal, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, peut-être que voilà.
Tu t'es remise en question, t'as culpabilisé.
Ouais, je me suis remise, mais vraiment, dans la chambre. Limite, j'avais même honte.
T'étais seule ?
Ouais, en fait, j'avais justement quelqu'un en fait, avec moi dans la chambre, et vu que l'enfant, il pleurait, enfin, là, je dis même l'enfant, j'ai même pas dit son prénom.
Ouais, pas encore.
Et ben, j'avais honte carrément. Je disais, ouais, limite, en fait, elle n'arrive pas à calmer son gosse.
Et la maman qui était à côté de toi dans la chambre, elle réagit pas, elle te rassure, elle ne calcule pas ?
Non, elle ne me calcule pas, mais elle-même, elle était dans ses... Et moi, c'est comme ça. Après, j'ai décidé, j'ai appelé quelqu'un, est-ce que vous pouvez le récupérer ? Et même ça, je me sentais mal de le dire. Je me suis dit, purée, voilà, ton enfant, il vient d'arriver, tu n'es même pas capable de le garder, quoi.
Ouais, c'est ça que tu as ressenti. Elle t'a rassuré, la sage-femme ou la péricultrice, quand tu lui demandes, elle te dit quelque chose, elle te dit, c'est normal, vous inquiétez pas.
Franchement, elles m'ont rassurée. Après, c'est vrai que je ne sais pas comment, je crois que c'est en récitant toutes les phrases que je connais. Il s'est calmé. À un moment, il s'est calmé. Mais c'est vrai que ouais, pendant des longs moments, il faisait que de pleurer.
Difficile.
C'est après coup, je me suis dit, peut-être que... quand il est sorti, il a fait que des miaulements. Peut-être que c'était là ses pleurs, en fait.
Ouais.
Parce que c'était vraiment aigu. Hein. Donc, on va dire, après coup, je me suis rassurée comme ça. Je me suis dit, peut-être que là, il dégageait ses bronches et tout ça, quoi.
Le deuxième jour de rencontre avec l'enfant que tu n'as pas encore nommé, ça se passe comment ? Le matin, tu te réveilles ?
Là, ça va beaucoup mieux, pour le coup.
Je l'allaite.
C'était un petit peu compliqué parce qu'il n'arrive pas à très bien attraper, mais après la sage-femme prend le temps de m'expliquer.
Donc, ouais, la mise au sein.
Effectivement, donc tout se passe bien et là la famille qui vient nous rendre visite, tout ça. Donc après ça allait. Après ça allait, il y a vraiment le lien qui s'est créé.
Tu dirais au bout de combien de temps ? C'est super important et je te remercie vraiment de déposer ça, Fatou, parce que il y a plein de gens qui fantasment sur la naissance. Tu demandes, tu as ceux qui te disent c'était horrible et tu as ceux qui te disent mais c'était juste merveilleux, comme si on ne pouvait pas le dire. Alors que je pense qu'il y a des millions de femmes qui passent aussi par là. Et qui te disent pas non mais la première rencontre c'était juste magique mais c'était d'abord une souffrance quoi. Donc à quel moment tu dirais que le lien se met en place, parce que après quand tu vas raconter ton lien et ta relation aujourd'hui, ça a rien à voir, mais à quel moment tu dirais que le lien se met en place?
Justement là c'est vraiment, moi je pense que c'est 2 jours après où là, on commence un peu à faire les soins, à lui donner le bain, à l'allaiter plusieurs fois. Et c'est là qu'on commence vraiment à créer du lien et surtout à se remettre aussi soi-même. Parce que notre corps subit vraiment quelque chose, une transformation. Donc, clairement, je pense que ça aussi, ça allait aussi avec moi-même, le fait de me remettre. Parce qu'avec les agrafes, le porter, on a mal, on souffre en fait, on n'arrive pas à apprécier ces moments.
Ouais, en fait, c'est pas des moments qui sont agréables, c'est des moments qui sont un peu dans la douleur.
Exactement, hein. Et on demande beaucoup d'aide. On demande beaucoup d'aide en fait. Donc, je pense que c'est plus 2 jours après.
Ouais.
Où là, on prend vraiment le temps de créer du lien parce qu'on est seul avec son enfant quand les visiteurs partent, bien entendu. Sinon, quand les visiteurs sont là, tout le monde le prend, tout le monde veut, voilà. Mais quand ils partent, on se retrouve seul avec son enfant. Et donc là, oui, là, il y a vraiment un lien qui se crée.
Je peux te poser une question ? Quand tu es à la maternité et que les gens ils viennent te voir, ta famille, etc., et que tu vois ton enfant être ballotté de main en main, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Est-ce que tu te dis rien, tu kiffes le moment ? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu dis mais doucement un peu, non ?
Mais bien sûr, on le dit. Parce qu'on se dit quoi ? Mais là, l'habitué pas au bras. Parce que quand vous partez là, c'est avec moi qu'il est en fait. Donc, de toute façon. on a tous notre idéalisation. Parce que quand on va voir pour les autres et quand on a pour soi-même, là, c'est autre chose.
C'est tout à fait.
Et c'est vrai que c'est là qu'on comprend, qu'on dit, ouais, non, par contre, ouais, évitez trop les bras parce qu'après, l'enfant, il va être habitué. Là, on comprend bien.
En plus, il y a des gens, des fois, ils les tiennent la tête, elles pensent un peu.
Ah, il y a ça aussi. Hein. Ouais, ça aussi, tu dis, ouais, non, l'enfant, il est fragile, tiens bien sa tête. Non, effectivement, non, il y a ça aussi. Il y a ça.
Il y a cette instinct de protection là qui se met en place.
Oui, exactement. Mais clairement, c'est vrai que là, tu te dis, ah ouais, là, ça y est. Là, je deviens maman, en fait.
Là, je deviens maman.
Parce que ben là, ce petit être, il est là. Et clairement, c'est pas quelqu'un d'autre, en fait, qui va dire, le tiens pas trop comme ça ou tiens sa tête. Là, il n'y a que toi qui peux le dire, clairement.
Tu te sens responsable, c'est bah oui. Pleinement responsable.
Là, ouais. Là, c'est vraiment la responsabilité qui se met en route.
Et du coup, à ce moment-là... tu te dis, je vais être une maman comme ça. Tu sais, quand ils sont tout bébés, là, on a plein de... Quelles étaient tes projections à toi en tant que maman? Est-ce que tu te projetais dans le lien que tu voulais mettre en place? Est-ce que tu avais des attendus vis-à-vis de toi avec Ibrahim? Ou est-ce que tu y vas pas à pas sans te poser de questions?
Non, franchement, moi, j'avais des attentes directes. Clairement, j'avais des attentes parce que bah, déjà, je suis mère seule. Mmh. Et moi, depuis qu'il était dans mon ventre déjà, Ibrahim, je lui disais dans ma langue, je lui disais, c'est mieux tu te gères.
C'est mieux,
ah ouais,
tu gères.
C'est mieux tu te gères. Gère-toi.
Et, ouais, quand, tu, ouais. et quand toi, tu dis à ce bébé qui est encore dans ton ventre, hey, c'est mieux que tu te gères, c'est quoi ton attente?
Ben, mon attente, c'est qu'il soit vite autonome, okay. Qu'il prenne les armes qu'il faut pour pouvoir vivre dans ce bas monde, okay. Clairement. Donc, c'est vraiment ça. C'est, voilà, prépare-toi déjà à venir dans ce monde qui n'est pas forcément de tout repos. Mmh. Donc, ouais, depuis qu'il est dans mon ventre, je lui disais, hey, c'est mieux tu te gères.
T'avais un peu peur ?
Franchement, non, j'avais pas peur.
Non.
J'avais pas peur. Bon, parce que temps, vraiment, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Mais c'est d'où le fait que je lui disais, gère-toi. Depuis que... Mais clairement, parce qu'on le dit, hein, les enfants, ils écoutent et tout ça. Mais clairement, pour le coup, quand je vois aujourd'hui comment il est, mais franchement, ça fonctionne,
en
fait.
Il a bien réceptionné le message.
Il n'a même pas le choix d'assimiler. Il n'a même pas le choix, en fait. Non, c'est clair.
On rentre justement dans les premiers mois de la vie d'Ibrahim. C'est quoi ton projet pour lui à ce moment-là? Est-ce que tu as un projet pour lui?
Ben, comme je te dis, hein, moi, franchement, là, aujourd'hui, l'OCP, mais moi, je pensais justement qu'il ne ferait pas le CP en France. Donc oui, les premiers mois, rapidement déjà, je fais en sorte qu'il ait ses vaccins,
ouais.
Tu vois, fièvre jaune et tout ça, parce qu'à même pas un an, on est parti au Mali.
Et vous êtes parti pendant
combien
de temps?
Ah oui, on est parti au Mali, 6 mois.
Ok, tu nous racontes?
Écoute, il fallait au Mali, au Sénégal d'ailleurs, on est parti au Mali, au Sénégal, fallait que je montre un peu l'enfant à la famille. En même temps, j'avais vraiment envie qu'il s'acclimate, qu'il s'habitue en fait à l'Afrique. Parce que clairement, je ne voulais pas qu'il ait comme moi, en fait...
ce besoin après de...
Voilà, exactement.
D'où il vient,
je voulais tout de suite, en fait, le mettre avec ses racines. Donc, il a fait le jardin d'enfants au Mali. Il mangeait les riz à la main avec tout le monde. Enfin, par exemple, Ibrahim, il n'a pas bu de lait. Mm. Ibrahim, il a bu du quinquilleba. Lui, tous les matins, son biberon, c'était du quinquilleba.
Explique aux auditeurs, c'est quoi le quinquilleba?
Le quinquilleba, c'est des plantes, en fait. C'est comme du thé. Hein. Mm. Voilà, c'est comme du thé. Et moi, en fait, c'était un biberon de quinquilleba avec de la citronnelle qu'il buvait, Ibrahim. Après, pareil, hein, au niveau des couches. Au début, on a pris un tas de couches pour aller. Mais quand les couches, elles sont finies, les couches, elles sont finies, en fait.
Ouais.
Donc là, tu vas mettre des couches réutilisables. Ou même, tu vas l'apprendre en fait, à être propre rapidement, en sachant que là-bas, il fait beau. Mm. Donc, l'enfant, tu peux le laisser
à l'air libre. Il a été propre à quel âge?
Ibrahim, il a été propre rapidement pour le coup. Après, ça n'empêche qu'il faisait des accidents.
Bien
il
sûr.
Faisait des accidents quand il est rentré. Bien avant de rentrer à l'école, il était propre. Hein. Mm. Mm.
Du coup, pendant ces 6 mois, vous vivez entre le Mali et le Sénégal. En tout cas, tu vis au Mali, mais tu fais un tour au Sénégal avec Ibrahim.
Ouais, j'ai fait un tour au Sénégal. Et après, c'était plus entre le Mali et la France, en fait. Donc voilà, le Mali, 6 mois, ensuite on revient, ensuite on est reparti.
Mmh. Et il rencontre son papa ?
Non.
Non.
Non. Non. Okay. Même pas de rencontre avec lui et pas de contact.
Il le demande ?
Non, même pas.
Parce qu'aujourd'hui, il est en CP. Alors, pour le coup, moi, il demande pas ?
Non. Moi, okay. Je n'ai même pas de contact avec lui. Et, après, moi, personnellement, je n'en veux pas. Mais après, voilà, ce sera autre chose. On va dire, on gérera au fil du temps.
Au fil du temps. Mais tu lui en parles. Est-ce que tu lui racontes ou pas encore
lui, comment c'est il plus est lui qui demande.
Son papa, à quoi il ressemble ? Est-ce qu'il te pose la question s'il ressemble
c'est plus
à quelqu'un
lui, c'est plus lui qui demande. Mais après, en même temps, je lui laisse me demander. Mmh. J'ai pas envie de trop lui raconter des choses. Après, il a tout de même en fait plein de figures, on va dire paternelles dans le sens parce que c'est son homonyme, donc mon père. Mmh. Qui est souvent avec lui, j'ai mon frère. Mm. Donc, on va dire, c'est plus eux, les références, on va dire, paternelles. Il y a aussi le mari de ma sœur. Donc, quand il me demande, quand il me pose des questions, je réponds. J'essaye déjà de ne pas lui mentir. Voilà, je lui dis, écoute, ta maman ne s'est pas entendue avec ton papa, je ne m'entends pas avec lui, on s'est disputé. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, il fait sa carrière. Voilà, il sait. Il sait. Et pour le coup, voilà, les enfants, ils ne sont pas... Tu lui donnes cette explication, il apprend quoi. Mmh. Après, plus grand, ce sera autre chose. Mais aujourd'hui, il prend l'explication, il ne sait pas d'aller plus loin. Quoi. Mmh.
Qu'est-ce qui motive ton retour à Paris, du coup ?
C'est moi, c'est quand même quelque chose. Fallait que je rentre aussi pour faire les contrôles de Ibrahim, parce qu'il était quand même assez jeune. Après, il faut aussi justifier de certaines choses. Hein. C'est très bien quand on est en France. Ouais. Voilà, il y a aussi ces choses-là. Et après, c'était aussi revenir pour mieux repartir. Hein. Ouais. Parce que, bien entendu, je suis repartie.
Et c'était un peu indécise. Tu le dis clairement, que à cet instant de ta vie, en tout cas, tu t'imagines repartir vivre au Mali. Tu fais quand même tes allers-retours, mais finalement, tu te figes pendant quelques temps ici, parce que tu as commencé par dire que tu ne voyais pas Ibrahim en CP ici en France.
Effectivement, ouais.
Et comment, du coup, ça se passe ?
Concrètement, je suis repartie au Mali avec lui. Il se passe aussi quand même un truc. Il est tombé malade, mais gravement. Il a même subi une opération au Mali. Donc, tu vois, encore un aspect qui. Alors, il était au jardin d'enfants. Il s'est en fait ouvert la lèvre et il faisait 40 degrés, bien entendu. Je l'ai amené à l'hôpital, enfin, pas à l'hôpital, d'abord dans une clinique. Et la pédiatre, en fait, m'a prescrit du Advil, chose qu'il ne fallait pas faire. Donc, du coup, ça a commencé à gonfler et ça s'est transformé en cellulo-facial, je ne sais pas quoi. Donc, il avait toute la partie en fait, droite qui était gonflée. Du coup, on l'a hospitalisé. Et quand ils l'ont hospitalisé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de changement. Donc, je décide sous... les conseils de ma tante de le sortir de cette clinique et de l'emmener chez une de ses amies qui, elle, a une autre clinique qui, elle, lui met un cathéter.
Ok.
Et dit, voilà, on va lui mettre des antibiotiques, en fait, matin et soir. Donc, ce que je fais. À ce moment-là, moi, y a mes parents qui me disent, qu'est-ce que tu fais encore là, quoi ?
Ouais, tu rentres.
Qu'est-ce que tu fais encore là, en fait ? Là, c'est là où tu te dis, ouais, c'est toi la responsable de l'enfant. Mmh. Et tu te dis, non, je reste là parce que de toute façon, j'envisage de m'installer au Mali. Donc, si je n'ai pas confiance en fait,
au système médical,
ça ne vaut pas le coup. Mmh. Donc, ça se résorbe, en fait. Donc, y a le pus, en fait, qui se collecte et qui descend là, au niveau du cou. Et là, deux, trois jours, en fait, du retour à Paris, il y a le médecin ORL qui dit que maintenant il va falloir l'opérer. On ne peut pas le laisser comme ça, là il va falloir vraiment l'opérer pour lui enlever. Et donc là, je ne préviens même pas mes parents, je vais toute seule à l'hôpital Gabriel Touré, donc l'hôpital public du Mali. et je confie mon enfant. Mais
tu dis
vraiment,
pas à tes parents, à
ce je dis pas à mes parents parce que je voulais pas en fait avoir cette pression de ouais t'es une mauvaise
rentrer,
mère, on t'avait dit de rentrer, pourquoi, voilà. Donc non, je décide de m'en remettre au bon Dieu, de faire confiance. L'enfant, il avait même pas 2 ans, hein, il avait 1 an et quelques, hein. Et là, on te prend ton enfant et en plus, tu rentres même pas dans l'hôpital, hein.
Ah, tu rentres pas dans l'hôpital?
Tu rentres pas. Et on fait une anesthésie générale à un enfant de même pas 2 ans. Donc voilà, il l'emmène.
T'es en confiance à ce moment?
Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Franchement, je fais que de prier. Je fais que de prier, c'est que ça. Je me dis, si vraiment... Là, pour le coup, il n'y a pas autre chose. Tu te réfères à là. Voilà. Donc, il me le ramène. Inerte, en fait, dans mes bras. Il me le dépose dans mes bras en mode...
ça y est, on l'a opéré.
Ça y est, on l'a opéré avec un gros pansement. Voilà.
Ah oui, il n'y a pas de... En fait, le système, il est différent, indéniablement. Mais du coup, il n'y a pas de salle de réveil.
Non, pour le coup, justement, du fait qu'ils savaient qu'on venait de la France, ils ont dit que nous, on ne supporterait pas, en fait, les soins post-opératoires sur Gabriel
sur
Touré.
Place.
Du coup, on me dit d'aller dans une autre clinique.
Mais on te donne ton fils dans les mains.
Ah, on me donne mon fils dans les mains.
Et on dit, vas-y, va là-bas.
Voilà l'ordonnance. Et on dit, voilà, là, maintenant, on a préparé et tout. Parce que franchement, il était génial, le docteur. Voilà, va dans la clinique Kabbalah maintenant. C'est
et mieux. Tu dois y aller par tes propres moyens, du coup?
Ah oui, non, mais tout était, était préparé. C'était pas très loin. Donc, du coup, on prend un taxi, on y va. Et là-bas, y a les soins post-opératoires qui sont faits. Après, on sort rapidement. Et là, il faut juste aller soigner, en fait, la plaie tous les jours. Et c'était assez douloureux. Mais les enfants, en fait, ils supportent des choses que nous, on pourrait pas supporter. Pour Donc, 2 jours après, on rentre sur Paris. Et arrivé sur Paris, je vais voir son pédiatre ici, qui est lui-même d'origine ivoirien, et qui regarde et qui dit, mais Madame Sidibé, franchement, on n'a pas les moyens. Hein. Mais il n'y a rien à dire. Hein. L'opération, elle s'est super bien passée. Mais même là, aujourd'hui, on ne voit rien, en fait, de sa cicatrice. Je crois que lui-même, il ne se rappelle même plus.
Il ne s'en rappelle plus.
Voilà. Oui. Et donc, franchement, je me félicite moi-même d'avoir eu confiance au médecin et je le remercierai jamais assez. D'ailleurs, ce médecin, franchement, il a été vraiment opérationnel. Ouais.
C'est pas rien ce que tu viens de déposer. Et, comment on se relève de ça, du coup, après, en tant que maman voilà, et vous rentrez à Paris, il va mieux, Dieu merci. Tu décides de t'installer, en tout cas, tu t'installes pour l'instant, tu es là.
Ouais.
Comment se passe ce retour à Paris?
Ce retour à Paris, déjà, il était... En fait, il devait être temporaire parce que j'avais pris un aller-retour sur Bamako. Mais il s'avère que la compagnie aérienne a fait faillite, donc j'ai pas eu de billet retour. Et en même temps, le Covid arrive. Donc là, je suis bloquée à Paris. Et donc, voilà. Là, ça fait depuis 2020 et je suis là.
Et du coup, tu as le temps de te poser puisqu'on parle du Covid. Quelles sont tes valeurs éducatives, Fatou? Est-ce que tu as des valeurs éducatives et quelles sont-elles?
Alors, les valeurs éducatives, bien sûr, j'en ai. J'en ai, en tout cas, déjà d'inculquer justement ces formes de culture qu'on en a. Le respect d'autrui, le respect, la tolérance, le respect de... Alors, vu que j'élève un garçon, le respect de la femme, surtout.
OK. Et du coup, ça, c'est des valeurs que tes parents t'ont transmises ou est-ce que c'est des valeurs qui sont propres à toi en quelque sorte?
Alors, c'est des valeurs qu'on m'a transmises, mais après, l'éducation, elle se fait pas toute seule dans le sens où même les personnes qui sont autour de soi contribuent aussi à l'éducation en fait, de son enfant. Et je pense qu'il est vraiment important justement d'être bien entouré, d'être bien soutenu. Pour pouvoir justement guider son enfant sur, en tout cas, entre guillemets, le bon chemin.
Et dans l'éducation que toi, tu as reçue de tes parents, qu'est-ce qui te tient à cœur de transmettre ou de ne pas transmettre à Ibrahim?
De ne pas transmettre, elle a dit.
Eh ouais. Il y a des fois des choses que nous, on a vécues ou que nos parents nous ont fait avec nous qu'on ne veut pas reproduire, des fois.
Alors, c'est vrai que là, maintenant, on parle beaucoup de... Alors, moi-même, je suis entrepreneur déjà. Mes parents n'ont pas été entrepreneurs. Pour être entrepreneur, il faut avoir un certain mindset. Du coup, l'histoire d'Ibrahim n'est pas anodine, déjà. Il a 6 ans aujourd'hui, il ne connaît pas son père. Et il faut qu'il arrive à se forger, en fait, ce caractère d'avoir confiance en lui, de croire en lui et de se donner les moyens d'arriver où il veut aller. De lui inculquer le fait que tout rêve peut être en fait réalisé. Rien n'est impossible. Encore faut-il s'en donner les moyens, donc travailler, s'entourer de bonnes personnes, avoir de l'empathie aussi, être tolérant, croire en soi, mais croire en Dieu aussi, puisque pour le coup, les valeurs religieuses aussi, je lui inculque. D'être ouvert sur le monde aussi, et c'est pour ça que, d'ailleurs, que je voyage énormément avec lui, d'avoir cette ouverture d'esprit. Donc c'est un peu tout ça que j'essaie de lui inculquer. Après, ce que je veux surtout pas lui inculquer, c'est vrai que nous, on a eu toujours cette éducation de le droit d'aînesse. Forcément, quelqu'un qui est plus âgé que nous, elle a forcément raison. Ça, c'est des choses que, certes, le respect, ça, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est plus âgé que toi a forcément raison. Mmh. Ça, c'est un truc que je ne veux pas, on va dire, transmettre à Ibrahim. Après, il y a d'autres choses aussi. C'est le fait de subir l'injustice. Mmh. Nous, nos parents, franchement, je ne leur en veux pas. Ils n'ont pas eu forcément le choix. Ils n'ont pas eu forcément le choix. Et c'est vrai que moi, justement, j'avais souvent des conflits par rapport à ma mère parce que je pense qu'elle pensait que je m'imposais trop. Mmh. Mais moi, je lui disais, maman, écoute, moi, je suis née en France, en fait. Je peux comprendre que toi... tu viens, tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien. Mais moi, je suis née en France. Ça veut dire, on va dire, tous les Babtou. Mais j'ai été à l'école avec eux, en fait. Pourquoi, en fait, eux, ils auraient plus raison que moi? Et c'est ce type de choses que je ne veux surtout pas inculquer à mon fils. Voilà, croire en lui, croire en ses valeurs, respecter tout le monde, mais ne pas s'écraser face à l'injustice ou à quelqu'un qui serait plus âgé que lui. Voilà, ça, c'est ces deux choses-là que je ne veux surtout pas... inculquer.
T'es maman solo. Mm. Selon toi, par rapport à ton vécu, c'est quoi les choses les plus difficiles pour toi? Je dirais pas pour une maman solo parce que personne n'a les mêmes difficultés. Mais pour toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés en tant que mère seule avec Ibrahim? Et si oui, lesquelles?
Clairement, comme je dis, moi, j'ai beaucoup, beaucoup le soutien de ma famille, de mes proches, de mes amis. Mais quand même, je me mets beaucoup de pression parce que je pars du principe où j'ai voulu avoir cet enfant. Donc, je l'assume, en fait, clairement. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir faire les choses par elle-même et de pas forcément tout le temps demander de l'aide. Donc,
c'est difficile, ça?
Ça peut être difficile sur des instants T, mais en même temps, c'est aussi des choses qui te permettent de te forger. Et ça ramène à la raison pour laquelle je disais à Ibrahim, quand il était dans mon ventre, gère-toi. Ibrahim, moi, le mercredi, il ne va pas au centre. Il n'a même pas envie d'y aller. Il reste à la maison et il se gère tout seul. Et il n'y a aucun problème. Donc, en comparaison, en fait, avec d'autres enfants de son âge, j'ai l'impression qu'il est plus éveillé, il est plus mature, tout simplement déjà parce que c'est un enfant qui il traîne avec sa mère, limite. Il traîne avec des adultes. Si ce n'est pas avec sa mère, c'est avec ses grands-parents qui eux-mêmes sont de grandes personnes, des personnes âgées même. Donc, c'est un enfant qui en fait, même dans son éducation, et ça, c'est, on me l'a dit, il évolue en fait avec des personnes plus âgées que lui. Et ça, c'est marrant parce que quand j'en parle avec mon père, il me dit, mais c'est normal. Moi-même, j'étais comme ça, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment l'homonyme de mon père. Il me dit, mais comment il fait, là ? Mais moi-même, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Moi, j'étais avec plus âgé que moi.
Du coup, je voudrais revenir sur deux choses que tu as dites, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame et qu'on puisse s'entendre sur ça. Quand tu dis, du coup, Ibrahim, il se gère, et que le mercredi, bah, du coup, tu peux te permettre de le laisser pendant quelques heures. Qu'est-ce que tu as mis en place et quel moyen il a, du coup, s'il y a un pépin, comment tu... voilà. Ce serait intéressant que tu comprennes quand même 5 minutes pour voir comment tu as organisé les choses, comment tu cadres les choses.
Mmh. Bah, c'est très simple. Alors déjà, moi, je suis à 2 minutes de mon domicile. Donc déjà, il n'est pas... Voilà. Aussi, il a un téléphone. Donc je l'appelle pour voir comment ça va en vidéo. Et clairement, allez, il reste 3 heures tout seul, quoi. Oui. Mais du coup, vraiment à 2 minutes, quoi.
Mais du coup, ce qui m'intéresse en tout cas et ce qui peut intéresser certaines personnes qui veulent faire gagner en autonomie ou rassurer d'autres qui pourraient dire « Oh là là, mais comment ça le laisse ?» comment on prépare son enfant à être autonome ? Et est-ce que ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui vient un peu de cette éducation un peu à l'africaine ? Disons-nous les choses. Ça veut dire que tu as eu Ibrahim en Afrique, tu es resté un petit peu là-bas. On sait qu'en Afrique, les enfants, ils sont autonomes très rapidement. Du coup, comment tu organises les choses ici avec Ibrahim pour t'assurer qu'il soit autonome, responsable, bon, qu'il ne fasse pas de bêtises, mais surtout qu'il ne se mette pas en danger ?
Bah déjà, c'est pas un enfant... Alors, lui-même, il a peur de certaines choses. Un exemple, quand il a commencé à aller sur les escaliers, Ibrahim, il descendait pas tout seul, hein, quand il n'arrivait pas. Hein. Il restait en haut, il essayait. Enfin, il a peur du danger, lui-même. Il connaît jusqu'à où il peut aller. Donc déjà, ça, il le faisait déjà.
C'est dans son tempérament.
C'est dans son tempérament, déjà. Après, comme j'ai dit, c'est quelqu'un... c'est un enfant, il a grandi dans un environnement que d'adultes. Du coup, il sait en fait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que moi, quand je parle avec mon enfant, il n'y a pas de tabou. Il m'entend aussi parler avec mes amis. Voilà, il nous entend en fait échanger. Donc, du coup, je pense que ça aussi, ça lui a donné une certaine forme de maturité plus vite qu'il devait être. Et après, il ne faut pas croire, hein, les enfants aussi... après, je ne sais pas si c'est que Ibrahim, mais ça m'étonnerait. Mais ils connaissent tellement de choses. Moi, c'est des enfants de l'intelligence artificielle. Moi, Ibrahim, il a envie de savoir quelque chose, il demande à la télé. Moi, je suis choquée. Il demande à la télé. Ou bien quand il veut même savoir quelque chose, il me dit « Maman, demande à Siri ».
Genre, non, demande à Siri.
Parce que toi, tu sais pas. Qui a créé Sonic. Demande à Siri. Dès qu'il y a un truc, même moi-même, quand je dis, ah, mais, il me dit, mais maman, demande à Siri.
Il est curieux. Et du coup, c'est intéressant que tu dis ça parce que, tu vois, on est quand même sous l'ère de faites attention, le danger des écrans, etc. Là, dans Raconte ta parentalité, on est vraiment dans le cadre d'un témoignage. On n'est pas dans de la guidance parentale ni rien du tout. Ouais. On est face à des parents qui viennent se raconter sur leur quotidien, que ça soit clair pour tout le monde et aussi que les auditeurs aient cette oreille en se disant l'idée et le concept de Raconte ta parentalité, c'est pas d'être dans le jugement, mais c'est justement de voir la pluralité des parents. Et qu'est-ce que les uns et les autres peuvent mettre en place, qu'est-ce qu'ils peuvent questionner ou pas. Et des fois, même nous, quand on se réécoute, on se réajuste. Des fois, on a besoin de personne pour se réajuster.
C'est ça.
Là, en ce moment, c'est les écrans, faites attention, etc. Mmh. Et c'est intéressant parce que toi, tu viens de déposer quelque chose en disant, moi, mon enfant, il se sert de cet outil numérique pour éveiller sa curiosité, pour répondre à ses questions. Tu nous en parles un petit peu, Samy.
Mais là, je vais même pas rajouter sur ce que tu viens de dire. Clairement, Ibrahim, il se sert... Lui, il a compris que c'est un outil, en fait. Mm. Parce qu'à côté de ça, par exemple, quand il est sur YouTube, je lui dis, Ibrahim, tu sais que là, tu as la télé en continu. Mais maman, quand elle avait ton âge, quand elle rentrait de l'école, il y avait quelque chose qui s'appelait Club Dorothée. J'ai dit, c'était à 16h30. Quand tu as raté, tu as raté. Il n'y a pas de... Ouais,
il n'y a pas de rediff.
Pas ça. Tu vois, donc, et en fait, il est tellement curieux de savoir en fait comment sa maman, comment son tonton et tout. Donc, il compare. Hein. À chaque fois, il compare. Il compare. Donc, c'est pour ça que je dis, lui, il a vraiment vite vu que c'était un outil et non pas, en fait, quelque chose qui va l'omnibuler. En fait, non, lui, il s'en sert vraiment d'outil.
Il s'en sert comme il va se servir des crayons.
Exactement. Bah, d'ailleurs, Ibrahim, c'est quelqu'un qui aime beaucoup dessiner. Mmh. Et lui, qu'est-ce qu'il fait comme, bon, là, maintenant, il apprend à lire et écrire. Mais quand il ne savait pas lire et écrire, il mettait YouTube, il disait « dessin Sonic » dans la télécommande, dans YouTube, pour que ça le mette. Et après, il suit. Ouais, donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, moi, franchement, il s'en sert comme d'un outil. C'est pas, voilà. Ici, je lui dis, voilà, même quand il est l'heure de M6, là, c'est Ibrahim qui dit, hey, maman, il y a les informations. Quand il voit que ça a dépassé, ben attends, maman, je remets. Il me remet lui-même les informations. Infos. Donc, encore une fois, non, franchement, il a la maîtrise de ses outils. Ils sont nés dedans. Mm. Il faut les éduquer, justement, à se servir de ces outils correctement, justement. Parce que, bon, au-delà de ça aussi, il y a quand même aussi une petite anecdote qu'il faut savoir. Moi, depuis qu'Ibrahim, il a 2-3 ans, je raconte vie ma vie de maman d'Ibrahim les réseaux sociaux. Donc, au moment où je le faisais, Ibrahim, il ne savait pas lire et écrire. Mais là, quand Facebook me remet des trucs que j'ai posés il y a 2-3 ans, je lui montre. Lui-même, il lit et il rigole. Je dis, bah, tu vois, maman, elle racontait un peu tes péripéties parce que tu me faisais rire, en fait. Donc,
Et c'est vrai qu'on a rigolé quand même. Tu nous en racontes au moins une qui t'a bien fait rire.
Même encore, la dernière fois, il me disait des trucs. Là, tu sais qu'Ibrahim m'a demandé quoi, là ? Non, parce que celle-là, il faut que je la dise. Ibrahim m'a dit quoi avant-hier ? Maman, est-ce que t'as un crush ? Oh. J'ai dit, Ibrahim, c'est quoi un crush ?
C'est quoi un crush ?
Ibrahim, c'est quoi un crush ? Il me dit, bah, c'est un amoureux. C'est un amoureux. Toi, t'as une amoureuse ? Il me dit, bah oui, tu sais, maman, j'ai une amoureuse. Je dis, ah, c'est réciproque ? Ça veut dire quoi, réciproque ? J'ai dit, est-ce que ton amoureuse, là,
elle t'aime ?
Elle aussi, elle t'aime. Non, il y a des choses qu'il a fait, vraiment. Bon, je pense que tous les enfants de son âge le faisaient, mais en fait, Ibrahim, c'est un enfant qui avait vraiment de la répartie. Il avait vraiment de la répartie. Ça va être des choses qu'il va me dire comme, par exemple, Ibrahim, il y a mamie qui a dit que vous allez vous marier, il faut acheter sa robe de mariée. Va dire, mais maman, avec quel argent ? J'ai pas d'argent. Lui, il dit les choses comme elles viennent et en plus, il dit la vérité.
Et si on va sur ton Facebook ou sur ton Insta, on peut découvrir justement ma vie de maman.
Effectivement, bon, là c'est vrai que là, j'ai un peu laissé parce que voilà, il est rentré à l'école. Là, c'est, on va dire, on a des journées chronométrées. Quand il vient, voilà, c'est les devoirs, on est KO et tout ça. Donc, je n'ai pas autant le temps. Mais oui, il y a des choses que j'ai postées avant que, voilà, qui peuvent être vues sur mon Facebook.
Fatou, le temps passe super vite. On a presque fini notre tasse de thé. J'aimerais quand même te poser deux questions. La première, c'est quel est le meilleur moment, si tu en as un, que tu as passé avec Ibrahim, ou la meilleure décision que tu as l'impression d'avoir prise ? Et quel est le pire moment ? Dans ta vie de maman.
Waouh. Écoute, meilleur moment, j'en ai plusieurs parce que après je me donne les moyens de les faire. Là, sur 2023, tous les deux mois, on a voyagé. Je l'ai amené à Dubaï, je l'ai amené à Barcelone, je l'ai amené à Antalya. Enfin, j'ai envie de te dire, chaque moment a été vraiment précieux parce que quand il voit des choses qu'il a jamais vues, il est émerveillé. Et quand ton enfant te dit, ah maman. Ce serait bien qu'on vive à Dubaï parce que ici c'est sécurisé. Ah, tu te dis, ah ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un projet qui va mûrir dans ta tête ? Donc,
Mais il a quand même conscience du danger qu'il peut y avoir. Et...
Effectivement.
Ouais,
ok. Effectivement.
Et le moment le plus difficile ou le moins agréable de ta parentalité, dans ta parentalité ?
Ben, c'est plus quand justement il va poser des questions en comparaison avec ses amis. Par exemple là aujourd'hui il me disait quelque chose là par contre ça m'a vraiment choqué ce qu'il m'a dit, ça m'a étonné. Il m'a dit ouais qu'il y a un ami qui lui a dit ouais ben bah, que genre je suis une maman d'accueil. Je dis comment ça je suis une maman d'accueil? Il me dit ouais ben bah, comme t'as pas de papa ben bah, en fait est-ce que c'est ta maman en fait?
Ah ouais, c'est là ça veut dire là, que l'autre enfant c'est questionné sur s'il était en famille d'accueil, s'est déplacé.
Exactement. Mais concrètement, quand je vois le nombre de familles monoparentales qu'il y a en France, en fait, je ne peux pas comprendre que ça peut se poser, quoi.
Bah, en fait, si on part du principe qu'il y a des enfants qui vivent dans leur cellule familiale et qu'à cet âge-là, ce que tu vois, toi, au quotidien, tu as l'impression que c'est ça, le monde. Si on lui a jamais expliqué ou s'il a jamais questionné, pour lui, tellement c'est peut-être un enfant qui n'a pas encore compris qu'il y avait plusieurs schémas, plusieurs modèles familiales, en fait.
Il y a peut-être ça, mais en fait, non, c'est plusieurs schémas, plusieurs modèles, il y a ça.
Mais le placement.
Le moment d'accueil, en fait. Ouais. C'est ça qui m'a un peu surprise. Sinon, en soi, non. Oui, clairement, moi-même, je suis un modèle. J'ai mes deux parents. Hein. J'ai mon père et ma mère qui sont encore ensemble. Et j'élève mon enfant tout seul. Donc déjà, même là, déjà, il y a... Enfin, même moi, hein, franchement, clairement, des fois, je me dis... Des fois, j'ai pitié, en fait. Je me dis, purée, lui, il n'a pas connu ce que moi, j'ai connu. Mmh. Mais franchement, le lien fusionnel que j'ai avec lui aujourd'hui, je me dis que voilà, il ne manque pas d'amour. Ni de moi, ni de son tonton, ni de ses grands-parents. Il est vraiment aimé. Mais des fois, je me dis, ouais, est-ce que c'est une bonne chose que, voilà, aujourd'hui, je l'élève seul. Mais quand je vois comment il évolue, je me dis, bah non, en fait, j'ai fait le bon choix.
T'as ta propre
réponse. J'ai fait le bon choix et pour l'instant, ça roule et voilà, quoi.
Le courage dont tu fais preuve, cette force... C'est important et tout le monde doute en fait, hein, qu'on soit en couple, qu'on soit seul, peu importe, en fait on doute tout le temps, on se pose tout le temps à un moment ou à un autre la question de est-ce qu'on a bien fait les choses, est-ce que c'est la meilleure chose à faire. Si tu avais un conseil à donner à d'autres mamans solo dans un premier temps, quel serait-il?
Ben, moi je pense pour le coup qu'il faut vraiment en fait s'aimer soi-même d'abord. En fait, quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer quelqu'un. Voilà, moi, c'est vrai que le fait que j'ai été au Mali pour faire ma grossesse, tout ça, j'avais besoin de ça, en fait, pour reprendre du temps, parce que je me demandais, en fait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, là, je vais arriver dans un schéma monoparental, alors que moi-même, j'ai mes deux parents, qu'est-ce qui a cloché, enfin, qu'est-ce que j'ai mal fait. Ça arrive, en fait, d'avoir des doutes. Et au contraire, c'est même bien d'avoir des doutes. Mais après, il faut savoir aussi les confronter et les éteindre. Mmh. Et j'ai envie de dire, le combat, c'est vraiment avec soi-même. Parce qu'on déteint sur notre enfant. Moi, je le vois, hein, Ibrahim, les mimiques, même sa manière de parler. Mais la vérité, c'est moi en mini.
Ah, il est dans une...
Et donc, concrètement, moi, le seul conseil que je peux donner, hein, c'est vraiment de s'apprécier soi-même, de s'aimer soi-même et de se faire confiance. Parce que clairement, un enfant, c'est de l'imitation. Donc, si soi-même, on n'est pas bien et qu'on est vraiment en mode dépression, qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on tâtonne et autres, eh ben forcément, ça se reverra sur l'enfant. Alors que si on se fait confiance, qu'on apprend à s'aimer, à se faire plaisir, à s'épanouir, quand on est soi-même épanoui, on a un enfant épanoui.
Mmh. Voilà. Merci pour ça, Fatou. L'idée, comme je l'ai dit, c'était qu'autour d'une tasse de thé, tranquillement, on soit dans un échange, qu'il y ait un maximum de parents qui puissent se raconter et qu'il y ait un maximum de parents aussi qui puissent trouver tout au long de ces témoignages une clé, des ressources, de la motivation ou peut-être pleurer des fois parce que voilà, peu importe. En tout cas, merci à toi.
Bah, ce fut un grand plaisir. Merci à toi.
Merci à mon Paris FM et je vous dis à plus tard. Personne ne doit rester à l'arrêt, n'est-ce pas ?